On va retrouver Daniel Habert, vous savez, notre géopolitologue maison. Et aujourd'hui, on revient avec lui sur la visite du président Xi Jinping en Europe. Et Daniel Habert nous parle de cela au micro, bien sûr, de Lucie Gilson.
Bonjour Daniel Habert.
Bonjour.
Alors, comme chaque semaine, nous allons décrypter avec vous une séquence de la géopolitique mondiale et plus particulièrement la géopolitique du Moyen-Orient. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un acteur relativement silencieux dans le conflit que vous connaissez bien, je crois, c'est la Chine et plus particulièrement la visite du président Xi Jinping en Europe. Cette visite a commencé à Paris en début de semaine. Question très large pour commencer. Quels étaient les enjeux principaux de cette visite?
Il y en avait deux. Il y avait un enjeu géopolitique, c'est la guerre en Ukraine. Tout le monde sait que la Chine aide la Russie. Elle le fait indirectement en achetant le gaz russe qu'elle ne vend plus à l'Europe. Et ça, c'est un effet puissant parce que ça donne des moyens à la Russie. Elle le fait aussi en livrant alors des équipements, des composants pour l'industrie militaire russe. Est-ce qu'elle livre des armes? C'est un petit peu l'enjeu. Les Chinois disent non. Je pense qu'ils n'ont pas besoin d'en livrer. D'abord, ils les gardent pour eux, puis parce que d'autres pays en livrent aussi, l'Iran en particulier, la Corée du Nord, et puis plein d'autres acteurs. Donc ça, c'était le premier enjeu. Le deuxième, c'était économique. La Chine, c'est devenue non plus une grande usine du monde de sous-traitance, mais c'est un pays qui invente des produits, qui est très en avance sur beaucoup de produits, en particulier dans les produits de la transition écologique, les voitures électriques, les panneaux solaires, les éoliennes, dont tout le monde a besoin, et eux, ils sont prêts à les livrer au monde entier, à prendre 100% du marché mondial s'ils pouvaient. Et évidemment, nous, on n'est pas d'accord parce qu'on voudrait laisser un peu de la place à nos propres industriels. Voilà, ça, c'était les deux gros enjeux.
Alors, qu'est-ce qui en ressort de cette visite?
Écoutez, d'abord, elle s'est bien passée, elle était amicale et au fond, on n'est pas en conflit ouvert. Ce ne sont pas des ennemis, les Chinois, ce sont des rivaux, éventuellement des rivaux systémiques. C'est-à-dire que leur système, bah, n'est pas le même que l'autre, mais bon, c'est comme ça, tout le monde n'a pas le même système dans la vie. Donc, c'était plutôt aimable. Et sur le plan géopolitique, qui est quand même le plus important, les Chinois ont dit on ne livre pas d'armes et on ne va pas en livrer. Mais au fond, c'est assez marginal puisqu'ils continuent à acheter du gaz et donc la Russie peut très bien s'en sortir sans les armes chinoises. Sur le plan économique, c'est plus compliqué. Au fond, la Chine dit, bon, vous pouvez m'empêcher de vous vendre des voitures électriques, mais moi, je me empêcherait de vendre vos sacs Vuitton et votre cognac et vos vins. Et alors, finalement, tout le monde est perdant, alors que pour l'instant, tout le monde est gagnant. Donc, c'est un peu ce genre de bras de fer qui se joue. Et après, chacun promet de faire attention, etc. Mais le fond de l'affaire, si on voulait résumer tout ça, c'est que la Chine, en venant en Europe, n'oublie pas que l'Europe, pour la Chine, c'est le premier marché. Donc, c'est vraiment un client important, il faut le soigner. Quand la Chine vient en France, elle sait que c'est un peu le cœur de l'Europe. Hein. Elle avait reçu le chancelier allemand, qui est le cœur économique de l'Europe. Mais bon, l'Allemagne ne va pas très bien sur le plan économique, justement. Elle est privée du gaz russe, qui a beaucoup diminué sa compétitivité. Donc, Xi Jinping connaît la force d'influence de la France en Europe. Et en plus, Macron a invité Ursula von der Leyen pour bien montrer que la France, bon, c'est un pays important, mais qu'il joue la carte de l'Europe. La France seule, au fond, n'est pas assez puissante face à la Chine, mais l'Europe puissance, comme le vend Macron, qui avait fait une grande conférence sur l'Europe quelques jours avant, que je pense que Xi Jinping a dû lire. Et donc, bon, Xi Jinping vient voir ce grand pays qui peut, ce grand pays en puissance, hein, l'Europe, si un jour elle voit le jour. Et puis, l'intérêt pour les Chinois, c'est au fond d'essayer de mettre un coin entre les Européens et les Américains. Hein, au lieu d'avoir un Occident uni face à lui, il peut diviser l'ennemi. De la même façon que nous, sur l'Ukraine, on leur dit, soyez pas trop amis des Russes, et on vous aimerait bien aussi diviser les Chinois et les Russes. Vous voyez, chacun joue la carte de fragmenter l'ennemi. Donc, dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. Ça changera rien à la réalité. Mais bon, vous savez, les Chinois, ils jouent au go. Ils mettent des petits pions comme ça. Bon, c'est un pion qui dit attention à ce que vous faites parce que nous, on n'a pas peur. Et on est devenu autre chose que ce que nous étions au 19e siècle. On peut faire des représailles et tout le monde serait perdant. Voilà, c'est un peu le message.
Est-ce que c'est là les seules motivations du président français derrière de cette invitation? Est-ce qu'on peut imaginer que c'était en lien avec l'enquête de l'Union européenne sur les subventions chinoises aux véhicules électriques?
Bon, je ne crois pas que Macron s'occupe de ça l'intéresse pas. C'est que la politique commerciale, donc les enquêtes, tout ça, c'est du ressort du tarif fixé hors commun, de la communauté européenne. Mais Macron, lui, joue la carte de demain, si l'Europe est une puissance, elle aura besoin d'un leader. Ça sera moi. Hein, c'est un peu ça qu'il dit. Hein. Je suis encore jeune, je suis beau, je suis intelligent. Dans quelques temps, je serai plus président de la France. C'est un peu petit pour moi. J'ai l'Europe. Donc, Xi Jinping, il connaît tout ça. Il sait tout ça. C'est des gens intelligents, les Chinois. Ils réfléchissent. Donc, il dit, voilà, c'est mon prochain peut-être grand rival. On ne sait jamais. Peut-être que l'Europe deviendra un jour une puissance. Ça peut arriver. Et ça sera dur, mais on peut y arriver. Ça sera mon partenaire. Alors autant avoir de bons liens avec lui, boire un coup de vin rouge et manger du saucisson ensemble. Voilà, ça fait partie de la grande diplomatie. Donc non, je crois que ce n'est pas pour des petites choses qui se voient. Ils se voient pour montrer que voilà, ce sont deux grandes puissances qui, quand même, le plus important, c'est on se parle, on ne se fait pas la guerre, ni par personne interposée, etc. Et on ne va pas se découpler, on va pas se fâcher. On va pas faire de la guerre froide. C'est pas comme du temps de l'Union soviétique. Hein. On va continuer à acheter, on va continuer à se vendre, mais on va jouer sur les détails, on va faire attention à ça ou ça, et on va se prévenir. Donc c'est plutôt, moi je vois ça plutôt positif. On se parle et on se dit les choses en face. Donc c'était nécessaire pour Xi de venir. Il aime bien voyager et il choisit un petit peu ses pays.
Et alors, du coup, ça me donne une très bonne transition pour ma prochaine question. Après sa visite à Paris, Xi Jinping est allé en Hongrie et également à Belgrade. C'est un itinéraire un tout petit peu particulier. Comment l'expliquer?
Ben, si vous voulez, la Chine, bon, je disais joueur de go, donc on cherche les points faibles. Dans le monde occidental, le point faible, c'est l'Europe. Parce que justement, elle n'est pas encore une puissance. Hein. Elle est divisée entre pays. On voit bien que les pays ne sont pas d'accord, qu'entre Scholz et Macron, c'est plus comme avant. En fait, ils sont d'accord sur rien. Mais enfin, on fait quand même partie de la même famille. On se dispute en famille. Donc, ils cherchent les points faibles. Alors, en Europe, il y a un pays qui est le point faible de l'Europe, c'est la Hongrie, parce que la Hongrie dit toujours le contraire de ce que disent tous les 26 autres. Donc, développons des liens avec celui qui est un semeur de troubles, parce que ça enlève un peu de puissance à l'Europe. Elle sera donc plus vulnérable à recevoir mes investissements. D'ailleurs, ils vont faire des investissements en Hongrie. Et à partir de là, les produits qui seront faits en Hongrie rentrent librement dans tout le reste de l'Europe. Donc l'Hongrie, c'est un peu le ventre mou, le point faible de l'Europe, la vulnérabilité, ils attaquent là-dessus. La Serbie, elle sera un jour peut-être dans l'Europe, mais c'est l'endroit où un jour les Américains ont bombardé l'ambassade chinoise à Belgrade, et ça, ils ne l'ont jamais oublié. Les Américains prétendent que c'était une erreur, très possible d'ailleurs. Les Chinois disent c'est fait exprès, donc on est là pour rappeler que la Chine n'oublie pas, n'oublie pas, et que la Serbie, c'est d'abord, c'est des orthodoxes qui sont près de la Russie, hein, c'est fait partie des pays européens qui sont à l'écoute de la Russie, des revendications légitimes russes, et quand un jour il y aura une négociation, parce qu'il y aura un jour une négociation entre la Russie et puis l'Occident, bon, la Serbie jouera le rôle, si on lui pose la question, de quelqu'un qui dit, ben, je suis à la fois européen et je comprends les Russes. Ouais. Donc c'est des jeux à plusieurs, soit les échecs, soit du go, mais c'est un jeu de géopolitique assez classique et assez normal.
Est-ce qu'on peut imaginer également que la visite de Xi Jinping dans ces pays, Belgrade, enfin, la Serbie, la Hongrie, c'est une façon pour eux de discréditer l'OTAN?
Alors, ce serait pas bien choisir leur cible, parce que la Hongrie a besoin de l'OTAN, elle y est dedans, elle en a besoin comme les autres, hein, elle peut avoir ses craintes. La Serbie n'y est pas et n'y sera pas demain matin. Non, je crois que le sujet, c'était pas l'OTAN. C'était vraiment, ça peut l'être indirectement, hein, dans la mesure où aujourd'hui, tout le monde attend en fait les élections américaines. Donc demain, quel sera le président américain? Et si c'est Trump, on sait bien que les cartes dans le conflit russo-ukrainien changeront. Et il y aura à ce moment-là une négociation, et les Européens seront amenés à prendre davantage de responsabilités. Et donc, des Chinois qui se présentent au fond comme une force de paix, d'équilibre, parce qu'ils ont besoin de la paix, eux, pour faire du business. Et donc, ils seront là pour peser tout leur poids, à la fois sur l'Occident, mais aussi sur la Russie, comme elle le fait déjà. Elle freine, hein, la main de Poutine. Quand il parle de nucléaire, par exemple, il lui tape sur les doigts en disant non, ne parlons pas des choses qui fâchent et qui n'existeront pas, on n'en est pas là. Donc, c'est encore une fois, c'est du jeu à long terme. Il marque des points et je pense que la Chine sera plus présente au moment où on parlera de grandes négociations de paix et de refaire l'ordre mondial dans lequel la Chine prendra évidemment toute sa place.
Eh bien, Daniel Haber, nous arrivons au terme de notre entretien hebdomadaire. Je vous remercie et puis à la semaine prochaine.
La semaine prochaine, au revoir.